Chers amis, chers frères et sœurs, c'est une joie pour nous d'être parmi vous ce matin. Nous n'avons pas trop l'habitude de venir dans ces coins-là. Il est vrai que j'étais plutôt habitué, il y a des années, il y a une cinquantaine d'années, visiter l'ancien lieu de culte, Montureux-sur-Saône, avec, quand on visitait nos cousins, Arbresol, Guingrich. Et c'était une joie pour nous de nous retrouver là-bas. Les CJ se faisaient au Montureux-sur-Saône, en fait. C'était un lieu pour les anciens, c'était le lieu de rencontre de tous les jeunes, Montureux-sur-Bignouvre. Ce matin, nous avons déjà entendu parler de ne pas s'inquiéter. Le thème de mon culte, du message ce matin, ce sera sur le doute. La culpabilité, quand vient le doute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu nous juge par notre doute, par notre manque de confiance? Alors lisons un texte dans Matthieu, au chapitre 11. Verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ces paroles : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On admet volontiers que le doute, l'incertitude, pour un chrétien, c'est vraiment un manque de foi. Ce n'est pas la marche victorieuse, quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, le doute a commencé dans l'esprit de nos premiers parents, quand Satan s'en est servi pour dire « Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que vraiment ce qu'il a dit, c'est cela ?» Je ne suis pas le seul à avoir des moments de doute. Il m'arrive parfois d'être déboussolé. Certains traversent des épreuves, mais alors aucun problème pour eux. Face au mystère de la grâce, on peut aussi douter. Mais Dieu ne se trompe pas. Toutes ces prières sans réponse, alors que Dieu promet de s'occuper d'un petit oiseau, nous l'avons entendu tout à l'heure. Tous ces petits détails de la vie, il s'en occupe. Mais voilà, la foi n'est pas toujours affaire de bon sens. Je dirais, n'est jamais affaire de bon sens, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, la foi, justement, c'est se confier en quelque chose qu'on ne connaît pas. Dans Marc, au chapitre 11, Jésus nous dit que c'est le doute qui nous empêche l'exaucement de nos prières, qui nous empêche de pouvoir dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Quelles sont nos prières? Comment sont-elles? Est-ce que nous croyons à l'exaucement? En étudiant l'histoire de ces géants de la foi qui ont aussi eu leur moment de doute, cela me rassure. Je vois que Dieu n'a jamais sanctionné le doute, ou rarement. Abraham, l'ami de Dieu, a eu ses moments de doute. Lorsque Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille, ta maison, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai », on peut l'imaginer parlant à Sarah, lui expliquer qu'il fallait lever le camp, sans savoir où, simplement parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Dites cela à quelqu'un aujourd'hui. Vous passerez pour un illuminé. Oui, Dieu m'a dit de partir, quitter ma ferme, mon travail, ma famille, sans raison apparente, sans savoir où. Je suis sûr que si vous dites cela, les jeunes, bien sûr, ils avaient un projet bien précis, et que Dieu les envoie. Mais dire simplement cela, Dieu m'a dit de tout quitter. On ne passerait pas un illuminé, personne ne nous cautionnerait cette décision. Que se passe-t-il dans le cœur d'Abraham face aux promesses de Dieu? Une descendance lui est promise, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais cette promesse tardait à venir. Combien de promesses sont dans la parole de Dieu et qui ne se réalise pas forcément tout de suite. Et le doute avait peut-être envahi notre cher Abraham. Son cœur a commencé à douter. Dieu aurait-il oublié sa promesse? J'ai quitté mon pays, j'ai tout abandonné. Mais la descendance, elle ne vient pas, toujours pas. Alors, notre Abraham a pris les choses en main et il a donné un petit coup de pouce au projet de Dieu. Et ainsi fut conçu Ismaël. Et les conséquences de cet acte, de cette décision, eh bien, on en voit encore les effets maintenant, cette rivalité en Palestine. Dieu ne se repent pas de ses promesses, même si elles tardent à venir. Elle s'est réalisée en Isaac, et sa foi en Dieu était telle pour Abraham, et si solide, qu'il n'a pas craint de lever le couteau pour égorger son fils. Abraham a fait confiance à Dieu, sans comprendre. Et Dieu pouvait réitérer ses promesses et son alliance. Mais la promesse faite à Abraham d'une multitude de témoins était liée à une promesse. Quitte ton pays. Je crois que souvent on oublie un peu cela, que les promesses de Dieu sont souvent liées à une obéissance. Malgré le texte de Genèse, je ne vais pas le lire pour ne pas trop allonger, mais nous voyons la réaction d'Abraham quand Dieu lui a promis une descendance. Abraham a ri. Sarah a ri. Mais ce n'est pas possible. À l'âge qu'on a, on ne peut plus avoir d'enfants maintenant. C'est pas trop tardé. Alors ce doute que Dieu ne se trompe pas. Comment Dieu a-t-il sanctionné ce couple? Les a-t-il punis pour n'avoir pas cru l'impossible? Dans l'Épître aux Romains, nous pouvons voir comment Dieu a sanctionné le doute d'Abraham et Sarah. Et bien justement, on n'y voit rien. Aucune allusion à leur doute tout à fait humaine. C'est vrai qu'humainement, c'était impossible. Mais il nous est dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. C'est ça la foi. Quand humainement, on ne peut pas trouver une réponse. Dieu a oublié leur doute. Lisons comment il est dit dans Romains au chapitre 4. Espérant contre toutes les espérances, il est question d'Abraham, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Pas allusion au doute. Dieu l'a oublié, Dieu l'a compris. Et c'est un peu ce que j'aimerais que nous retenions ce matin. Le doute n'est pas un péché, c'est normal. On a le droit de voir à notre vue, parce que on admet que Dieu, la parole nous dit, que nous ne comprenons pas assez. Tellement éloigné de nous sa pensée de voir et de faire, mais que nous posons des questions, Dieu les admet. Hudson Taylor disait: Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes de grande foi, mais ceux qui sont prêts à le suivre et à lui obéir. Les promesses sont toujours liées à un acte d'obéissance. La foi n'est pas l'absence de doute, mais une obéissance à Dieu. Je pense à ces chrétiens réunis chez Marie pour prier pour la libération de Pierre. Leur cœur est visiblement rempli de doutes. Lorsqu'on vient leur annoncer qu'il est libéré, Pierre, pour la raison pour laquelle ils priaient, eh bien, leur est exaucé. Pierre est libéré, il ne le croit pas. Mais Dieu est folle, pas possible, il est en prison. C'est comme ça qu'on réagit souvent dans les réponses à Dieu. Le texte de Matthieu que nous avons lu, nous voyons Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste qui a eu le privilège d'être l'instrument de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu affirmant sa divinité sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, Jean-Baptiste l'a vu. Il en était témoin. Et pourtant, les choses ont passé. Il est au fond de sa prison pour satisfaire Hérode. Et alors il a des doutes. Jean-Baptiste commence à douter de ce qu'il a annoncé depuis le temps. Celui qui vient après moi est avant moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et pourtant, au fond de sa prison, Jean a un doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Est-ce que je me suis trompé? Mais comme elle est naturelle, cette réflexion, cette réponse, cette inquiétude, Jean-Baptiste n'a pas peur d'exprimer ses doutes, d'être accusé de manque de foi. Et pourtant, Jésus va lui rendre ce beau témoignage. Parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste a douté. Quel amour de Dieu pour nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il peut comprendre les moments de doute lorsque nous passons par des moments difficiles ou des échecs. Jean-Baptiste, malgré une mission exceptionnelle, n'en était pas moins un homme. Ce précurseur qui criait dans le désert, invitant les gens à la repentance. Il crie aussi dans la prison pour dénoncer le péché d'Hérode. Mais le temps passe, et le voilà qui doute. Es-tu celui que j'ai annoncé ou je me suis trompé? La réponse de Jésus est simple. Et là encore, qu'il est bon de voir comment Dieu répond. On ne peut pas dire qu'il a vraiment répondu à Jean-Baptiste, à sa question. Ceux qui étaient venus interroger Jésus de la part de Jean-Baptiste, il leur dit « Allez dire à Jean ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Forcément, Jean-Baptiste, derrière les barreaux, ne pouvait pas voir tout cela. Quelle frustration! Nous avons sans doute connu des situations où nos régions étaient bouchées, le chômage qui perdure, la santé qui vous fuit, des moments de déprime, le découragement spirituel. C'est à chaque fois des barreaux qui se mettent devant nos yeux, qui nous empêchent de voir au-delà de ces barreaux que Christ est à l'œuvre, au travers des difficultés. Jésus n'a pas libéré Jean-Baptiste, mais il lui a envoyé une réponse claire à sa question. Comme pour lui dire, ta mission est terminée. Maintenant, je prends le relais. La Bible ne nous dit pas comment Jean a accueilli cette réponse. Mais la même parole sera interprétée différemment, suivant dans quel état d'esprit nous serons, nous nous trouvons. On peut voir un exemple de prière, on ne peut pas le voir parce qu'on est trop borné à notre situation. On attend que Dieu réponde, on attend que Dieu exauce, et pourtant la réponse ne vient pas. Pas tout de suite en tout cas. L'année passée, nous avons perdu notre gendre à 3 mois du mariage. Et les mois qui ont suivi ont été très difficiles. Ce drame nous a plongé en plein désarroi. J'avoue que j'ai flanché. Comment Dieu, tu peux... Telle souffrance, tu peux permettre cela. Les promesses de Dieu étaient en complète contradiction avec ce que nous vivions. Où sont tes promesses de bonheur et de paix? Maintenant, nous pouvons dire, je peux dire, Dieu ne se trompe pas. Même si intellectuellement, on le sait, dans la tourmente, on est incapable de voir au-delà. On voit l'immédiat. On voit la souffrance de notre fille, complètement désemparée. Pouvoir dire que Dieu ne se trompe pas. Je visitais une jeune femme, il y a quelques années, qui venait de perdre son mari, veuve, à 35 ans, avec 5 enfants. Je vous assure, quand on visite de telles personnes, on ne sait pas quoi dire. On ne dit rien. Plusieurs mois après, j'ai osé lui donner ce verset de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Pour une jeune veuve, quelle était son espérance? Alors elle me répondit, « Maintenant je peux l'imaginer. » Et le doute s'estompe petit à petit, et je veux m'accrocher à cette promesse, car je ne connaissais pas ce verset, mais dans mon cœur je savais qu'il ne pouvait pas en être autrement. Dieu ne se trompe pas. Nous avons parfois de la peine à écouter Dieu. La tempête fait tellement rage qu'on ne l'entend plus. Lorsque Dieu voulut s'entretenir avec Élie, À Horeb, tous les éléments se sont manifestés, le vent violent, la tremblement de terre, le feu. Dieu n'était pas là. Survint un murmure doux et léger, Dieu était là. Il faut un silence intérieur pour entendre la voix de Dieu. Même si de nombreuses fois nous ouvrons la Bible et que les textes nous apparaissent déphasés avec ce que nous vivons, il nous faut persévérer, comme l'eau souterraine qui trouve son chemin après avoir détourné bien les obstacles. Nos vies peuvent connaître des obstacles, des difficultés, des crises violentes, mais ne cessons jamais d'écouter le murmure de la parole de Dieu. Les jeunes sont pleins de projets, nous l'avons entendu. Ce qui est fabuleux, c'est que l'Église est derrière, vous encourage, mais ce n'est pas parce que vous avez l'appui de tout le monde que c'est dans le plan de Dieu, peut-être, qu'il n'y aura pas de difficultés. En tout cas, avant les vacances, il y a les examens, n'est-ce pas ? Le bac pour certains, peut-être. Certains ont déjà validé leur année, tant mieux pour lui. Mais vous avez prié, je pense, pour réussir l'examen, pour que Dieu assure votre avenir. Mais comment réagirez-vous si c'est l'échec ? Seigneur, où sont tes promesses ? J'ai prié, j'ai bossé pour avoir ce bac, pour en arriver là. Alors dites plutôt à Dieu, en vue de quoi tu permets cela ? Dieu a un plan, qui a une excuse, une raison pour ramener quelque part que vous ne doutez pas. L'échec, comme pour Jean-Baptiste la prison, l'espoir qu'on se bat pour rien, que Dieu est trop loin, trop haut, et qu'elle ne s'occupe pas de nos petits détails. La seule réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste est une citation d'Écriture, d'Ésaïe 35. Que les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Face à nos doutes, la réponse est bien dans la Bible. Même si chaque réponse conserve pour nous une part de mystère. Jésus sur la croix a aussi eu son moment de doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il faut savoir que le doute de Jésus est venu 3 heures après l'agonie, de souffrance, et il était devenu tellement, pleinement homme pour pouvoir prendre ma place. C'est ce qui a donné de la valeur au sacrifice de Jésus. Dieu l'a ressuscité au 3e jour, et c'est la base de notre foi. Une vie de chrétien n'exclut pas la souffrance, les difficultés. Quand vient le doute, c'est la première chose que nous devons nous souvenir, c'est cette croix dressée. Et que Dieu garde le contrôle de chaque situation, de chaque événement. Lorsque Thomas a exprimé ses doutes, Jésus lui a montré ses cicatrices. Et la foi de Thomas se trouvait dans les plaies guéries de Jésus. Les doutes de Thomas se sont transformés en certitude, et il est devenu l'évangéliste des Indes, selon les écrits. Votre foi peut être toute petite, ce n'est pas grave, ou très grande. Vous savez, cette femme qui dit, si je pouvais seulement toucher le bord de ses vêtements pour être guérie. Ce père face à son fils malade, je crois, vient au secours de mon incrédulité. Il y a un paradoxe entre ce verset, mais ce que vous dites, l'humilité que nous devons avoir devant Dieu. Quand vient le doute, rappelez-vous que Dieu ne se trompe pas. Et ce n'est pas ma capacité de croire qui rend Dieu crédible. J'aime cette phrase que j'ai lue quelque part. Ce n'est pas ma capacité de croire qui rend Dieu crédible. Quelqu'un disait, ne dites pas à Dieu combien votre tempête est grande, votre souffrance est grande, mais dites à votre tempête combien Dieu est grand. Quand les disciples virent Jésus dans Matthieu 28, il nous a dit, certains eurent des doutes. C'est peut-être pas lui. Et pourtant, c'était ces hommes-là que Dieu a choisi, qu'il envoie en mission. Il s'est approché d'eux et leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de transformer vos doutes en certitude. Le pouvoir de vous rassurer. Le pouvoir de vous accompagner dans la tourmente. Car il a promis d'être avec vous tous les jours. Il est donc là aujourd'hui. Il sera là demain. Il sera là à l'URSS. Il sera là au Congo. Mais il n'exclut pas peut-être vous parler différemment par des difficultés ou parce que ça ne marchera pas forcément. Pour celle qui va au Congo, je vous assure que avec tous les projets que vous avez faits, les réunions que vous avez faites, probablement que ça ne se passera pas comme vous avez prévu. Dieu vous prépare aussi à être ses témoins. Il y a dans Ésaïe 58, au verset 11, une belle promesse que j'aimerais vous lire. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Cette promesse est liée à une obéissance. Si vous relirez les versets qui précèdent cela, c'est le jeûne en qui Dieu prend plaisir. Aimer l'orphelin, soutenir la veuve, donner son pain à celui qui a faim. Si tu fais cela, alors tu seras en bénédiction. Comme Abraham l'a été, cette promesse, tu seras en bénédiction. Une source, si Dieu nous promet d'être une source ne coule pas d'elle-même, mais elle coule pour irriguer sur son passage. Mais en même temps, si elle n'est pas alimentée, cette source, elle va tarir, il n'y aura rien. Alors, si Dieu nous promet d'être une source d'eau qui ne tarira pas, c'est parce que continuellement, lui, il alimente. Il alimente cette source renouvelée par son amour. C'est son amour qui va nous alimenter chaque jour pour pouvoir donner en retour, que ce soit ici ou ailleurs. S'il y a une chose à laquelle nous ne pouvons pas douter, c'est la certitude de l'amour infini de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser qu'au travers des difficultés, peut-être des doutes que nous aurions, des inquiétudes, l'amour de Dieu reste infini. Et que nous avons cette promesse pour nous et pour ceux qui nous entourent, que nous devons être ces canaux de cet amour, transmettre l'amour de Dieu qui ne faiblit pas, qui ne tarit jamais. À nous d'être fidèles, d'être trouvés à son écoute, de ne pas nous faire désarçonner par l'inquiétude, le doute, par les difficultés, par la souffrance, par les échecs. N'oublions pas, l'amour de Dieu sera là pour alimenter notre source qui doit aider les autres. Que le Seigneur vous aide dans ces temps de vacances aussi pour être renouvelé, pour laisser enrichir par sa parole et conduire avec l'assurance de son amour. Amen. Père Céleste, quel bonheur de pouvoir lire ta parole et être encouragé par elle. Pardonne pour les moments où nous avons flanché dans notre foi parce que l'épreuve trop dure, mais merci parce que tu n'en tiens pas compte, tu pardonnes et tu comprends. Merci pour l'exemple d'Abraham, de Jean-Baptiste, où tu as compris le doute. Si quelqu'un ce matin est dans ce moment de difficulté, de doute, d'incertitude, veut parler à son cœur, veut le renouveler, Père, lui rappeler que tu les aimes. Te prions aussi d'accompagner nos jeunes dans ces projets de vacances qui n'oublient pas de d'abord t'honorer, te glorifier dans leurs paroles, de leur attitude, qu'ils puissent être témoins de ta grâce et de ton amour. Oui, merci Père pour cet amour qui ne change pas, qui ne faiblit pas, qui toujours à nouveau nous renouvelle.